Le 3 août 1966.
Du nouveau?
Non, il y a un petit trou. Vous pouvez t'intéresser.
Mais c'est ce que tu fais qui m'intéresse.
Ce que
tu fais?
Mon petit. Je fais des découvertes.
Oui.
Moi, je n'ai pas des découvertes du tout. Quand le mental est actif, ou plutôt, mettons, tant que le mental est actif, quand on a consacré sa vie et qu'on est pleinement convaincu que c'est la seule raison d'être, on s'imagine plus ou moins que quand on travaille pour le divin, tout l'être participe. Et que quand on a l'aspiration de progresser, tout l'être participe, comme ça. C'est une espèce... On est satisfait quand, une fois que il n'y a plus aucune contradiction, ni dans le vital, ni dans le mental, que tout est d'accord, harmonieux, n'est-ce pas? On croit avoir remporté une victoire. Et alors maintenant que ce sont les cellules du corps qui veulent et qui aspirent, eh bien, elles ont été obligées de constater que les souffrances, les difficultés, les oppositions, les complications, tout ça, c'est uniquement pour qu'elles soient entièrement, complètement, totalement et constamment dans leur aspiration. C'est extrêmement intéressant. Extrêmement. Je t'ai dit l'autre fois, n'est-ce pas, ces moments que j'ai eus, qui étaient vraiment des moments de réalisation. Et puis, j'ai bien vu que ça partait parce que ça pouvait pas rester. Et j'ai voulu tout de suite savoir pourquoi ça ne pouvait pas rester. Dire comme ça, c'est pas prêt, ça ne signifie rien du tout, n'est-ce pas? Et alors, ce sont les cellules elles-mêmes qui ont constaté que il y a une espèce de, c'est pas une, c'est quelque chose entre la torpeur, la somnolence, l'engourdissement et l'indifférence. Qui est confondu, oui, on confond cet état-là pour la paix, la tranquillité et le... l'acceptation. Mais c'est vraiment une forme du tamas. Et c'est ça qui fait que ça pourrait durer pour un... ce qui, pour notre conscience, c'est presque une éternité. Et alors, il y a eu, je t'ai dit, n'est-ce pas, une expérience. Elle s'est répétée sous une autre forme. Ce n'est jamais la même forme qui se répète. Sous une autre forme. Et alors, là, elles se sont aperçues de cette espèce d'intensité, d'ardeur, de volonté qui s'empare d'elles et de, comment dire, quelque chose de concret dans le don de soi, dans le surrender, dans le... qui n'existe pas quand tout va bien. Ce que l'on a l'habitude d'appeler tout va bien, c'est-à-dire qu'on ne sent pas son corps, qu'il n'y a aucune difficulté. Ça a été presque une déconvenue pour ces cellules. Qui se croyaient très ardentes. Et qui ont dû se rendre compte que c'était cette semi-somnolence qui est entièrement responsable pour tout ce que l'on a l'habitude d'appeler des maladies, mais les maladies, moi, je n'y crois plus. J'y crois de moins en moins. Tout ce qui vient, ça vient comme une forme de désordre, de résistance, d'incompréhension d'incapacité, n'est-ce pas, c'est tout du domaine de la résistance. Et il n'y a pas de résistance volontaire, c'est-à-dire ce qu'on est convenu d'appeler de mauvaise volonté. J'espère que c'est vrai. Ils ne s'en sont pas encore aperçus. Il y en a. Mais tout ça, il y a comme des choses qui viennent comme des indications aiguës, n'est-ce pas, des différents points. Alors, ça se traduit par ce que l'on appelle des douleurs ou un sens de désordre ou un malaise. Le malaise, c'est-à-dire le sens de désordre, de désharmonie, ça c'est beaucoup plus douloureux que... C'est beaucoup plus pénible qu'une douleur aiguë, beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile à supporter. C'est comme quelque chose qui se met à grincer comme ça et qui n'arrive pas à se remettre dans... Tout ça, dans la conscience ordinaire, dans la vision humaine ordinaire, c'est ce que l'on appelle des maladies. Il ne reste que, n'est-ce pas, le phénomène de la contagion, de virus ou de microbiennes, mais là, c'est l'expérience et comment dire, ce sont les phénomènes de désordre psychologique, tous les désordres psychologiques, qui sont, selon l'expérience, de la même nature que la contagion d'une maladie contagieuse, de tous les virus et de tous les microbes, comme mettons la peste, le choléra, etc. Les contagions psychologiques, d'états psychologiques, des états de révolte, de violence, de colère et de dépression. C'est contagieux, de la même façon. C'est un phénomène analogue. Par conséquent, puisque c'est un phénomène analogue, c'est simplement une question de mots. On appelle ça des maladies, ça aussi, ça peut être appelé des maladies, ou on peut appeler ça des, tout ce que l'on veut, n'est-ce pas? C'est une question de mots, c'est tout. Mais c'est analogue. C'est la même. C'est une ouverture au désordre, ou une ouverture à la révolte, on l'appelle comme on veut. Dans un autre domaine de vibration, c'est tout. Mais le caractère est identique. Et alors, on fait des découvertes. On fait des découvertes extraordinaires. Comment il y a toujours un envers et un endroit à toute expérience. Par exemple, le calme, d'une vision assez vaste pour ne pas être dérangé par des petits points infinitésimaux. Qui paraît, c'est pour ça que je me suis arrêté. Ça ne paraît pas, ça y est. Le résultat d'une croissance de la conscience et d'une identification avec les régions supérieures. Et en même temps, cette apparente insensibilité qui semble être la négation de la compassion divine. Il y a un moment où on voit les deux choses. Devenir vrai. Et pouvoir exister pas simultanément, mais en une chose. J'ai eu une expérience tout à fait concrète. Pas plus tard qu'avant-hier, d'une vague extrêmement intense de la compassion divine. Et alors, la possibilité d'observer comment, si on la laisse se manifester sur un certain plan, ça devient une émotion qui peut déranger, troubler le calme imperturbable, mais si ça se manifeste, ce ne sont même pas des plans, c'est imperceptible l'union. Si ça se manifeste dans sa vérité essentielle, ça garde tout son pouvoir d'action, d'aide efficace. Et ça ne change rien au calme imperturbable de la vision éternelle. Tout ça, ce sont des expériences de nuances ou des nuances d'expériences, je ne sais pas comment dire, qui ne deviennent nécessaires et concrètes que dans la conscience physique. Et alors ça fait une perfection de réalisation, une perfection dans le détail le plus infime qu'aucune de ces réalisations n'a dans le domaine supérieur. En train d'apprendre ce que la réalisation physique apporte de concret, d'exact, de parfait dans la réalisation. Et comment tout ça s'interpénètre, se combine, se complète. Merveilleux. Et en même temps, petit à petit, il y a par démonstration quel est le vrai usage qui doit être fait de l'activité mentale. Sa raison d'être, on compense à servir, éduquer, éveiller, je sais. Mais ce n'est pas une chose qui, après avoir fait son devoir, rempli son office, disparaîtra. Ça sera utilisé de sa propre manière, mais de sa vraie manière et à sa vraie place, et ça devient merveilleusement intéressant. Par exemple, n'est-ce pas, cette idée qu'on est ce que l'on pense, on peut ce que l'on sait. Eh bien, ça paraît comme une nécessité de transition, de passage d'un état de conscience à un autre. Mais ce n'est pas, comme je dis, une chose qui disparaîtra quand l'autre sera atteint. Ça sera utilisé, mais à sa place. Quand on a l'expérience de l'union, ça paraît inutile. Le rapport direct, l'action directe, se passe de ça. Mais ça, à sa vraie place, agissant de la vraie manière, gardant juste sa place, non pas de nécessité, ni même d'utilité, mais de raffinement de l'action. C'est tout à fait intéressant. Quand on voit le tout comme la prise de conscience de soi-même, Ça enrichit le tout. Et quand chaque chose est à sa place, ça devient si harmonieux et si simple, mais d'une simplicité si pleine, si complète, si parfaite, où tout est utilisé. Et tout ça, il y a une... Il semble que ce soit presque la clé du problème de la compréhension. Il y a une concentration spéciale sur pourquoi, le pourquoi, le comment de la mort. Il y a des années, quand M. Aubineau était encore là, un jour c'était venu comme un, n'est-ce pas, un éblouissement, une révélation impérieuse. On ne meurt que quand on choisit de mourir. J'avais dit à M. Aubineau, voilà, on m'a déçu ça. Il m'a dit, c'est vrai. Je lui ai demandé toujours, dans tous les cas, il m'a dit toujours. Seulement, on n'est pas conscient. Les êtres humains ne sont pas conscients. Mais c'est comme ça. Et maintenant, je commence à comprendre. Des expériences, des exemples donnés. Où il, dans le détail des vibrations intérieures du corps, l'état comme ça, et c'est le choix, un choix qui va presque, d'une façon presque générale, presque, est inconscient, mais qui dans certains individus peut être conscient. Mais ce n'est pas, je ne parle pas des cas sentimentaux, de, ce n'est pas, mal, je parle du corps, des cellules qui acceptent la désintégration. Il y a une volonté comme ceci ou une volonté comme cela. Cette volonté son origine est la vérité de l'être. Mais il semble, et ça c'est une chose merveilleuse, il semble que la décision finale est laissée au soin des cellules elles-mêmes. Je ne parle pas du tout de toutes les consciences physiques, vitales, psychiques, rien de tout ça. Je parle de la conscience des cellules. Le moment est comme ça. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Ça, ça veut dire dissolution, ça veut dire continuation et progrès. Continuation avec nécessité de progrès. Quelque chose qui est la conscience des cellules. Une conscience qui observe. Et qui, lorsque elle est éveillée, est un témoin merveilleux. C'est ça, cette conscience-là qui fait comme ça. Ça se traduit par une volonté d'endurance et de durée, ou un besoin de l'annihilation du repos. Et alors, quand ces cellules sont pleines de cette lumière dorée, cette splendeur de l'amour divin, il y a le sens de comme ne soit comme une soif, un besoin de participer à cela qui enlève tout ce qui peut être pénible dans l'endurance. Ça disparaît, ça devient une gloire. Et alors c'est ça qui est en train d'être appris. Mais pour pouvoir, et ça c'est une chose qui s'élabore d'une façon parallèle, pour pouvoir observer exactement ce qui se passe dans ce domaine cellulaire, il faut qu'on soit tout à fait libre et indépendant de l'influence des autres êtres humains. Et ça, c'est extrêmement difficile. À cause de cette habitude de mélange. C'est la sensibilité des cellules qui est de la difficulté. Et alors il faut prendre soin tout le temps de brancher toute cette sensibilité seulement sur l'aspiration vers le suprême. C'est ça l'unique moyen, la solution. Et il y a constamment à faire ça. Chaque fois qu'on sent, il en sent. Le contact, l'influence du contact. N'est-ce pas, dans la vie ordinaire, pour se débarrasser d'une influence, on coupe dans l'air. Il y a ce mouvement de repli, de recul, d'isolation, tous ces mouvements psychologiques. Dans le physique par l'isolement matériel, dans le vital, dans le psychique, dans le mental, partout, n'est-ce pas, c'est toujours coupé, séparé. Mais ça, c'est faux. C'est faux. C'est contraire à la vérité. La vérité, c'est sentir l'union, et pourtant pour le travail cellulaire, de transformation cellulaire, il faut arriver à un isolement qui ne soit pas une contradiction de l'unité essentielle. Et ça, c'est un peu difficile. C'est ça qui fait un travail très délicat, très minutieux, très microscopique, et qui complique un peu. Comme par exemple, on peut arriver à toucher, prendre la main de quelqu'un, à toucher, et que l'union ne se fasse que dans la vérité profonde. Et qu'extérieurement, il n'y ait que une juxtaposition de ces deux. Tu avais quelque chose à me dire? Non? Le travail est très intense.